Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.
Bonjour, vous suivez Carte sur table sur Hype FM, nous sommes heureux de vous retrouver encore cette semaine. Depuis hier, l'Arménie n'a plus de ministre des Affaires étrangères, au terme de 3 semaines d'intense agitation aux frontières, du fait de l'incursion d'un millier de soldats azéris. Après avoir cherché à minimiser la situation durant la première semaine, le pouvoir arménien a cherché des soutiens diplomatiques dans la deuxième, avant de constater amèrement que ceux-ci ne viendront pas à son secours, et en stigmatisant l'OTCSC et la Russie. Aram Manoukian, le fondateur de la République de 1918, dont le pouvoir hier a fêté en catimini le 103e anniversaire comme honteux de la réussite historique de ces hommes qui ont, eux, créé de toutes pièces une nation. Aram Manoukian, donc le défenseur de Vannes, le dirigeant Tachnag, le père de la République, disait « Nous sommes seuls et nous devons compter sur nos propres forces, à la fois pour défendre le front et pour établir l'ordre à l'intérieur du pays. » Il faut méditer sur ces paroles au moment où, depuis 3 ans, tous les piliers de la société arménienne ont été remis en cause. L'armée, la police, la justice, l'histoire et la mémoire de ce peuple, la presse, l'église, sans parler de l'hymne arménien que l'on voulait changer, le trouvant trop guerrier. Où sont désormais les forces sur lesquelles l'État peut compter pour le défendre? Après avoir dit qu'il trouvait Chauchi trop triste et trop sombre, et que donc il n'y avait pas lieu de la défendre, le premier ministre arménien a déclaré hier devant ses partisans « Quelle importance cela a où passe la frontière dans l'Ararat, le Nakhichevan, Djermouk ou l'Azerbaïdjan ?» Et cela ne peut nous rassurer sur l'avenir de l'Arménie, avec des dirigeants qui ne se soucient pas de savoir où sont les frontières de ce pays. Sans compter qu'il renvoie aussi aux oubliettes l'histoire du Karabakh Merne, le Karabakh est à nous. Ce serait une des raisons de la démission d'Ara Evazian, le ministre des Affaires étrangères, car sur le plan diplomatique aussi, l'Arménie semble de plus en plus isolée. Comment s'articulent les relations diplomatiques de l'Arménie au lendemain de la capitulation du 9 novembre 2020? Quels sont les soutiens dont l'Arménie peut se prévaloir? Pourquoi, au-delà des faibles condamnations, la France, les États-Unis, l'Europe renvoient encore dos à dos l'Arménie et l'Azerbaïdjan et ne prennent aucune sanction à l'égard de l'Azerbaïdjan, qu'elles ont pourtant désigné comme le responsable de la guerre et comme l'agresseur de l'Arménie et de l'Artsar? Surtout, quelles sont les raisons de l'attitude pour le moins réservée de la Russie à l'égard de l'Arménie? Autant de points sur lesquels nous reviendrons avec nos invités, Christian Makarian, journaliste et spécialiste des questions internationales, et Jean-Robert Ravio, professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre, au cours de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons avoir en direct de Yerevan Kerem Manoukian, directeur de la chaîne Yelgir Media TV, qui reviendra sur les derniers événements en Arménie, le lancement de la campagne électorale, mais également sur cette démission du ministère des Affaires étrangères. Et pour cela, je cède immédiatement la parole à Mariette Garabedian.
Parev Sirelium Kantirnej, tu que le sec carte sur table haïta kije, Harut Martirosiani et Mariette Garabedian y het. Aïsor maïs ksanouti ksan innek, maïs ksanouti har yerort taretarci hajort ore. Hazainar tasnutin, tseraspanutenen yerek tarivech, hajorovurst karogatsa vera kangneli rougere, Եվ Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ հիմնվեցավ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։ 6 տարի շարունակ աշխարհի վրա են ճնճված էր Հայաստանի անունը։ Գոյություն չուներ Հայաստանը միջազգային քարտեզի վրա։ Սակայն տեղի ունեցավ աներևակայելին։ Երբ չի մնում ելք ու ճար, խնդիրն են գտնում հնար։ Եվ այսպիսով Բաշաբարան, Ղարակիլիսա և Սարդարաբադի ճակատամարտերը հաղթելով Հայ ժողովուրդը հավատաց իր սեփական ուժին, իր սեփական ժողովուրդին ու իր ձեռք առավ իր ապագան։ Այս առաջին հանրապետությունը հիմքն էր մեր այսօրվա հանրապետության, որի վրա կգուրգուրա, կհոգա, կուրախանա և կտխրի անոր ցավերով ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Հայկական պետականությունը սրբություն է, մեզ համար և պետք է անոր գուրգուրալ աչքի լույսի պես։ Նույնը չէ պարական իշխանության հետ։ Մանավանդ այսօրվա իշխանության, որուն կործանարար քաղաքականության հետևանքով կվտանգվե մեր պետականությունը։ Հայաստանը այդ փոքրիկ կետը միջազգային քարտեզի վրա մինչև 3 տարի առաջ կվայելեր համակրանք, թե արևելքի, Ռուսաստանի Դաշնության, թե Արևմուտքի իր Թյուրքի աշխատանքի շնորհիվ։ Սակայն սեպտեմբեր 27-ին ի վեր Հայաստանը մինակ մնացած է։ Արցախյան պատերազմին Ռուսաստանի Դաշնությունը սպասեց ու հայացքը դարձուց այլուր։ Արդյոք Քրեմլինը ուզեց Նիկոլ Փաշինյանին դաս տալ իր արևմտամետ քաղաքականության համար, իսկ Հայաստանը արևմուտքի ազդեցության գոտի մեջ չէ և արևմուտքը չմիջամտեց։ Արդյունքը եղավ Արցախի 73% կորուստ, 5000 երիտասարդ կյանքերի կորուստ, 10000 հաշմանդամ ու տեղահանվածներ։ Հայաստանի իշխանության սխալ հաշվարկումի անպատասխանատու կեցվածքի հետևանքով այլևս չենք զատորոշել բարեկամն ու թշնամին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյան և իր կառավարությունը բարեկամական կոչեր կուղեն մեր տարավոր թշնամին, Ադրբեջանին և Թուրքիո հետ, իսկ կանտեսեն մեր երկրի համար կենսական դաշնակիցներուն։ Այս բոլորի մասին, ինչպես նաև այսօրվա խորհրդարանական ընտրություններու մասին, կխոսենք նախ Կեղամ Մանուկյանի հետ, երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տնօրենին, ապա մեր զրուցակիցը գլա Քրիստիան Մակյարյան վերլուծապան և միջազգային հարաբերություններու մասնակետ, և մենք կզրուցենք ապա Ժան Ռոբեր Ղավիոյի հետ, համալսարանի դասախոս և ռուսական քաղաքակրթության մասնակետ։ Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Կեղամ Մանուկյանին Երևան։ Բարև Կեղամ Մանուկյան, բարի եկածեք։
Բարև բոլորին, արեցից օգտվելով կուզեի շնորհավորեի առաջին հանրապետության 103-ամյակը, թե 3 տոնական տրամադրություն մեր երկրում չկար, մարդիկ ուղղակի կոտրված էին, և դրան էլ գումարվեց հերթական խայտառակությունը, և այս անգամ եռաբլուրից հետո պղծվեց Սարդարաբադի հուշահամալիրը, որովհետև դեռ խորհրդային Հայաստանի տարիներից Սարդարաբադի հուշահամալիրը մայիսի 28-ին և տարբեր առիթներով միշտ եղել է հավաքատեղի, բայց 3 ոստիկանական հսկայական շարասուններով փակված էր ոչ միայն Սարդարաբադի հուշամալիրը, այլ հարակից գյուղերի ճանապարհները և մարդիկ, անգամ լրագրողներ հնարություն չունեցան ժամերով մուտք գործել Սարդարաբադ, որովհետև այսօրվա իշխանության ղեկին նստածը պետք է ծաղկեմատության առարողություն իրականացնի։ Այո,
ճիշտ։ Ուրեմն, անցյալ շաբաթվա ընթացքին ներկայացուցին հունիսի 20-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններու ցանկերը։ Ընդհանուրը 27 ցանկ, արդյոք շատ չէ Հայաստանի պես փոքր երկրի համար, և ինչու այսքան բաժանում փոքր և նորեստեղծ կազմակերպությունները չէին կարող միանալ։
Հայաստանում էլ իրականում նույն հարցադրումը կա, թե այսքան ցանկ ինչի իմաստ ունի այսքան ցանկով հանդես գալու։ Իրականում պետք է ասել, որ մի քանի ուժ է, որ մասնակցում է դաշինքով կամ կուսակցությունով, մնացած բոլորի մասնակցությունը ավելի շատ օլիմպիական սկզբունքով է, երբ որ կարևոր չի, թե ինչ արդյունքներ կունենաս, կարևորը մասնակցությունն է։ Նույնիսկ կատակում եմ, որ շատերը ուղղակի ուզում են հեռուստատեսությամբ անվճար ելույթ ունենալ, որ իր հնարությունը բոլորին տալու են, որ հարևանների շրջանում կարողանա պարտանել, որ ինքը հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունեցել։ Դրան գումարած կա ևս մի կարևոր շրջանակ կուսակցությունների կամ դաշինքների, որոնք ընտրություններին մասնակցում են ոչ թե ընտրություններում արդյունք ապահովելու, այլ իշխանության կողմից իրական ընդդիմադիր ուժերին և ընդդիմությանը, հատկապես Հայաստան դաշինքին թիրախավորելու, հարվածելու, ավելի շատ դրոպե վարկյան զբաղեցնելու հարց, ասեմ միտքս ինչ է, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով հանրային ամենամեծ ծփումն ունեցող հեռուստաընկերության եթերում ընտրությունների մասնակցող բոլոր կուսակցությունները ունեն անվճար եթերի ժամաքանակ, և ինչ ուզեն կարող են այդ ժամաքանակում խոսել, և դա ավելի շատ դրանք օգտագործելու են Հայաստան դաշինքին հարվածելու հոգուտ իշխանություններին խոսելու համար։ Այս դեպքում դեռ ժամանակ կա, մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատի, և չի բացառվում, որ որոշները ուղղակի դուրս մնան։ Բայց մի կարևոր ևս բան, ամսող շաբաթվա հետ կապված, Հայաստան դաշինքը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ուր հստակ և վերջնական հայտարարեց, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից բացառվում է հետագայում խորհրդարանում, եթե նույնիսկ Փաշինյանի կուսակցությունը խորհրդարանում հայտնվի, բացառվում է Փաշինյանի կուսակցության հետ Դաշինքի կոալիցիայի ձևավորումը։ Դրան հաջորդեց պատիվ ունեմը, Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը, 5165 նորաստեղ կուսակցությունը, մնացյալ կուսակցությունները եւ երկու կուսակցությունը, որ ակնարկել է, որ կարող է Փաշինյանի հետ համագործակցել, որոնց խորհրդարանում հայտնվելու հնարավորությունները շատ-շատ կասկածելի են, եթե չասեմ անհնար է։ Եվ կարելի է հիմա արդեն ընտրություններից առաջ արձանագրել, որ հունիսի 20-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը ազատվելու է վարչապետ տի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանից։ Հիմա այլևս արձանագրելի է անկասկած, որ Նիկոլ Փաշինյանը զերկվելու է առավարություն կազմելու հնարավորությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 20-ից հետո եւ իր կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը չեն ունենալու կառավարություն կազմելու հնարություն եւ նրանք չեն լինելու կառավարություն։ Այո։
Գերամանյանը լսեցինք, որ արտգործ նախարար պարոն Արա Այվազյանը հրաժարական ներկայացուցած է 5-7 օրը։ Ինքը հայտարարած էր, թե հրաժարական կներկայացնի, եթե Նիկոլ Փաշինյան որևէ գաղտնի պաստաթուղթ ստորագրի։ Արդյոք այս հրաժարականը ասել է, թե նորեն գաղտնի թուղթ համաձայնագիր ստորագրված է։
Գիտեք, Արա Այվազյանը մեկ անգամ պատրաստվել է հրաժարական ներկայացնել հունվար ամսին, ելի տարատեսակ խնդիրների պատճառով, եւ միայն արտգործնախարարության ներքին համակարգն է խնդրել դա չանել, որովհետեւ ողբերգություն է սա, երբ որ մի ամբողջ արտաքին գործերի նախարարություն պրոֆեսիոնալ դիվանագետներով խնդրում են, որ հրաժարական չտա, որովհետև վախենում են, որ ցանկացած պահի կարող է արտաքին գործերի նախարար նշանակվել ոչ մասնագետ, ոչ դիվանագետ մարդ ուղղակի քաղաքական նշանակման պատճառով, բայց Արա Այվազյանը դեռ բացատրություն չի տվել, բայց կարծում եմ վերջին Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի խելագար առաջարկները հունի ցանել է արդեն փորձառու դիվանագետի եւ նա հրաժարական է ներկայացրել, սակայն շատ-շատերը շեշտում են Արա Այվազյանի արածը կես քայլ է, նա պարտավոր է ուղղակի հրապարակային հայտարարել, թե ինչ պատճառներով է հրաժարական տալի։ Մարդ, որը սիրում է իր երկիրը, հայրենիքը, պարտավոր է ոչ միայն հրաժարականով ահազանգ հնչեցնել, այլ ուղղակի կոչնակ հնչեցնել դրա մասին հայտարարություն անելով, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, թե գաղտագողի Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ինչ է պատրաստում, ինչ առիթ է պատրաստում բերել մեր երկրի գլխին։
Իսկ ինչ է պայմաններն այսօր սահմանի վրա։
Առանձնահատուկ նորություններ չկան սահմանի վրա, մնում է նույն անորոշ իրավիճակը, Ադրբեջանը երեկելի շարունակեց հոխորտալ սահմանների հարցով, ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի ոչ հստակ առաջարկի, որ հնչեցրել էր 2 օր առաջ, եւ մեր տղաները 6 զինվորականներ, որ գերեվարվել էին ըստ նախնական տեղեկությունների, արդեն տեղափոխվել են Բաքվի բանտ, որը նշանակում է, որ նրանց վերադարձի հավանականությունը կար ժամանակով վերադարձի հավանականությունը շատ քիչ է։
Բայց այսօր գրնանք վստահեցնել, որ սահմանները որոշ չափով պաշտպանված են, ինչքան էլ որ, այսինքն
շատ հարաբերական է ասել որոշ չափով պաշտպանված են, որովհետև սահմանը պաշտպանված է եւ գործում է ինժեներական կառույցներ, պաշտպանական գծեր, իսկ հիմա ուղղակի այս բարձիթող կառավարման, բարձիթող իրավիճակի, պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի ղեկավարության ուղղակի այս ամենաթողության հետևանքով մեր զինվորականները հերոսաբար ուղղակի կանգնած են սահմաններում առանց որևէ պաշտպանական կառույցների եւ համակարգերի։
Շատ շնորհակալ եմ Գեգամ Մանուկյան այս հետաքրքիր տեղեկություններու համար եւ ցտեսություն։ Հաջողություն ձեզ։
Տեսություն, շնորհակալ եմ։ Լավ լինեք։
Մերսի, նմանապես։ Հարութ։
Entendu Kéram Manoukian qui nous a fait un compte rendu de la situation. Nous avons maintenant en ligne Christian Makarian. Christian Makarian, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre encore une fois sur Carte sur Table. Nous avons besoin encore une fois de vos éclairages. Vous avez analysé avec attention la situation actuelle de l'Arménie avec cette dernière incursion de soldats azéris sur le territoire de la République d'Arménie visiblement. Quelle est votre analyse de la situation, des conditions dans lesquelles diplomatiques, dans lesquelles se trouve l'Arménie?
Écoutez, le plus frappant, c'est que il y a un moment où l'analyse s'arrête et où une réflexion plus approfondie exige de l'action. Or, ce qui est frappant, c'est l'absence d'action du côté de l'Arménie, c'est-à-dire non pas la passivité, mais le fait de subir. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un problème extrêmement grave qui se pose, puisque on voit bien quelle est la tactique d'Aliyev, on voit pas du tout quelle est la riposte de l'Arménie. Le fait que Pachinian invoque une réponse internationale, d'ailleurs assez confuse, parce qu'il invoque tantôt l'OTSC, tantôt d'autres intervenants comme l'Union européenne.
D'alliance stratégique avec la Russie, et puis maintenant, effectivement, il en appelle à l'OSCE.
Voilà. On voit bien qu'il y a une antinomie, parce que c'est là que la réponse de Pachinian apparaît extrêmement confuse, puisque on voit mal comment les Russes pourraient accepter une intervention l'OTSC à la rigueur, mais l'OSCE ou bien l'Union européenne encore moins. L'Union européenne s'est portée candidate par la voix de son porte-parole au règlement du litige frontalier, mais enfin de façon juridique. Ça n'incorpore absolument pas la situation sur le terrain. Donc moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont Pachinian continue à montrer une très forte incompétence et une incapacité à gérer une crise qui est devenue véritablement existentielle, puisque depuis la fin de l'année dernière, le conflit qui visait le Karabakh est devenu un conflit qui vise l'existence même de la République d'Arménie. Et tout ça s'est fait sous le même mandat de Pachinian. Donc si on extrapole, même après des élections, quelle pourra être la situation si Pachinian sort avec une coalition plus ou moins bancale, encore vainqueur de ces élections? Il me semble qu'il y a vraiment une situation extrêmement, extrêmement critique qui est en train de s'approfondir. Je reviens au calcul d'Aliyev. Aliyev cherche visiblement trois choses. D'abord, à transformer encore son essai, c'est-à-dire à pousser l'avantage militaire au maximum, puisque, ayant été victorieux, il essaie maintenant d'être victorieux sur le plan des limites internationalement reconnues jusqu'ici aux deux États que sont l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec une contradiction dont il n'a que faire. Cette contradiction, c'est que l'Azerbaïdjan est intervenu au nom, soi-disant, du droit international, puisque le droit international reconnaissait les frontières antérieures, de l'Azerbaïdjan qui incorporait le Karabakh. Et là, il viole ces frontières internationales en se permettant de dire que la ligne frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, telle qu'elle a été tracée, n'est pas valable et qu'il entend la corriger. Donc là, il y a une contradiction flagrante. Mais ce qui est frappant, c'est le silence de la communauté internationale. Donc, quelque part, Aliyev essaie de tester ce qui lui reste comme marge de manœuvre. Et il faut constater que depuis une quinzaine de jours, sa marge de manœuvre est encore très vaste. Deuxièmement, Aliyev essaie de semer le trouble, et visiblement il prend un plaisir à le faire, à l'intérieur de la classe politique arménienne, parce que ce genre d'incursion frontalière, bien sûr, ne peut qu'envenimer le débat politique intérieur arménien et aggraver encore la discorde. Et enfin, troisièmement, Aliyev teste les Russes. Et moi, je suis navré, mais on doit constater qu'il n'y a pas de réponse énergique de la part des Russes aux côtés de leur allié arménien, logorée qu'emploie Sergueï Lavrov pour évoquer au sujet de l'Arménie un peuple frère, n'a absolument aucune valeur ni aucun sens concret sur le terrain. Et ça, quelque part, c'est aussi au bénéfice d'Aliyev. Donc si vous faites un gros effort et vous mettez dans la tête d'Aliyev, vous vous dites que vous avez intérêt à poursuivre cette situation-là. et que pour mesurer jusqu'à quel point il n'y a pas de réaction en face et à quel point l'Arménie se délite. Le discours d'Aliyev, qu'il faut quand même lire et décrypter, puisqu'il contient beaucoup de choses, c'est de dire, premièrement, l'Arménie n'a plus aucune armée, et deuxièmement, elle est en proie à des divisions internes tellement fortes que c'est le moment idéal de pousser l'avantage pour l'Azerbaïdjan et de grignoter, fût-ce la bordure d'un lac, le fameux Serbie, qui n'a en fait aucune importance, mais une importance théorique, derrière laquelle se situe la question du couloir du Yangtze. Aliyev a proclamé, n'est-ce pas, de façon extrêmement prétentieuse, qu'il revenait en quelque sorte de droit à l'Azerbaïdjan, alors que c'est encore une fois en violation complète du principe d'intangibilité des frontières sur lequel l'Azerbaïdjan s'est appuyé pour réinvestir le Karabakh. Donc, si vous voulez, il y a là une offensive vraiment sur plusieurs fronts de la part d'Aliyev, et ce qui est frappant, ce n'est pas le caractère offensif d'Aliyev, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Ce qui est frappant, c'est l'absence de réaction arménienne et cette espèce de discours, encore une fois, naïf et totalement incompétent, qui consiste à la fois à solliciter quasiment à genoux l'intervention des Russes, qui se fera uniquement selon les critères des intérêts russes, c'est-à-dire sûrement pas selon les critères des intérêts arméniens, et deuxièmement de solliciter une solution diplomatique complètement boiteuse entre le traité qui unit l'Arménie, la Russie ou des États aussi pro-arméniens, on imagine, là je parle de façon ironique, que le Kirghizistan, le Tadjikistan ou le Kazakhstan, hein, puisqu'ils font partie de cette alliance. De l'autre côté, une organisation occidentale, voire l'Union européenne, voire le groupe de Minsk. Autant d'interlocuteurs dont la Russie ne veut pas. Donc, il n'y a pas de solution diplomatique telle que Pachinian la présente. Ça n'a aucune valeur, c'est extrêmement confus. C'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de la bouillie, complètement, de la bouillie diplomatique. Ça n'a aucune valeur exécutoire, ni opérationnelle. Or, sur le terrain, la situation est bel et bien qu'il y a un millier de soldats azéris sur le territoire arménien qui vont, qui viennent, sans qu'on ait aucune information sur l'opération de déplacement, etc. Il y a déjà...
Christian.
Allô?
Oui, on vous entendait un peu moins bien.
Ah, je n'y suis pour rien. Là, c'est...
Oui, tout
vous
à
m'entendez
fait.
Mieux, là?
Oui, parfait.
C'est la ligne. Je plaide non coupable.
Tout à fait.
Donc, face à une telle situation, il ne peut y avoir avant tout qu'une réplique intérieure. Où est la détermination arménienne face à une situation aussi dramatique? Je ne sais pas, il me vient deux exemples à l'esprit. Vous savez, en 1914, quand l'armée allemande était à quelques dizaines de kilomètres de Paris, le général Joffre a imaginé...
Les taxis de la Marne.
Voilà, une contre-offensive qui était carrément pas militaire et qui n'était pas peut-être à la gloire des forces armées, mais qui a été d'une intelligence rare. Il a mobilisé tous les taxis civils, il s'en est emparé, et il a déplacé les troupes dans une grande boucle pour les remettre sur le revers de l'armée allemande, ce qui a stoppé les Allemands. Il faut imaginer des actions qui maintenant mobilisent la société civile, puisque l'armée arménienne est très affaiblie. Et je ne constate aucune, de la part de Pachinian, aucune mobilisation, aucun discours de ce type-là. De la même manière, Pachinian aurait dû déployer une énergie, mais à ne plus dormir la nuit, pour aller rendre visite à tous les chefs d'État qu'il peut éventuellement solliciter, comme Emmanuel Macron à Paris. Or, il ne fait pas ce déplacement, empêtré dans son processus électoral. Il ne fait pas appel, il ne mobilise pas, il ne... communauté internationale, autant pour faire une violation de frontières. Donc, ni il mobilise l'intérieur, ni il sensibilise à l'extérieur. Franchement, là, on se trouve dans une situation qui semble être une impasse il faut absolument qu'une action se produise. Or, je n'en vois pas arriver avant les fameuses élections du 1 juin, dont on ne peut pas attendre un miracle. Il faut découpler la question électorale de la question de survie nationale. Et la question de la survie nationale ne passe que par une mobilisation de toutes les forces, des volontaires, des moyens civils, des groupes d'autodéfense. Tout doit être fait pour installer une barrière en faisant bien attention de ne pas tomber dans le piège tendu par Aliyev, qui est celui d'une réplique frontale, puisqu'évidemment, Aliyev, si on tue un certain nombre de soldats azéris, prendra prétexte de cet événement pour mener une offensive en bonne et due forme et s'emparera encore de portions du territoire de la République d'Arménie. Il faut donc éviter cela, mais il faut lui opposer une mobilisation très forte qui le surprenne. Or, il n'y a rien dans l'attitude de Pachinian qui soit de nature à surprendre Aliyev. Au contraire.
Alors, revenons justement sur ces points. On va reparler de la relation Arménie et Russie, mais vous mettez en avant, dans ce que vous venez de dire, l'absence de vision, de solution. Pachinian vient de déclarer qu'il envisageait de signer un traité secret qu'il a commencé à négocier avec Poutine et Aliyev en solo, c'est-à-dire entre présidents, sans consulter son ministre des Affaires étrangères, qui du coup en a démissionné. Cet accord visant à déterminer les frontières une bonne fois pour toutes et définitivement, de façon à ce qu'on sache où est-ce qu'il faut passer. Et au passage, en disant que peu lui importait de savoir si les frontières passaient à tel endroit ou à tel endroit, ce qui est stratégiquement un peu limite. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, que Aliyev, une fois qu'on aura défini les frontières, arrêtera toute politique expansionniste ?
Non, parce que son discours ultra-nationaliste et plein de haine est extrêmement fonctionnel. C'est exactement ce qui se passe aussi pour Erdogan. Les Américains, depuis 26 ans, la question arménienne était devenue en Azerbaïdjan un point de fabrication d'une conscience nationale. Les Azéris, qui vivent sous une dictature extrêmement répressive et corrompue, trouve une sorte d'union sacrée contre l'Arménie. Et ça, c'est une grosse erreur de la totalité, sans aucune exception, des dirigeants arméniens, que ce soit Der Petrosyan, Kocharyan, Sarkissian ou Pachinian. Il fallait bien comprendre, il me semble que au niveau intellectuel, je dis bien au niveau intellectuel, Der Petrosyan avait un peu mieux perçu ce problème que ses successeurs. Mais enfin, c'est resté intellectuel. Hein. Ça n'a jamais été porté en pratique. Mais il ne faut plus que l'Arménie soit l'otage du nationalisme azéri. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas viable. Puisque entre l'indépendance et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a vu sa population augmenter de 3,5 millions d'habitants, tandis que l'Arménie a vu sa population diminuer de 500 000, 1 million. Les statistiques ne sont pas extrêmement fiables. Et même en se limitant à 500 ou 700 000 personnes, le déficit migratoire est constant. Or, je rappelle que 3,5
On n'entend plus Christian. On va chercher à le reprendre. On va chercher à le reprendre.
Moi, je vous entends.
Allô ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, ça y est, je vous entends, Christian.
Mais moi, je vous entendais, mais vous... C'est vous... Graphique.
Christian, on a des difficultés sur la ligne, on va vous rappeler pour, oui. Pour avoir peut-être une meilleure ligne. Juste une seconde. Donc, Donc je rappelle que nous sommes en ligne avec Christian Makarian et que nous avions eu juste auparavant Kera Manoukian qui nous indiquait que sur les élections qui étaient à venir, à la question de savoir pourquoi il y avait autant de partis, il avait déclaré que beaucoup de ces partis n'étaient que purement représentatifs, et pour certains, la blague à Yerevan dit qu'ils ne sont là que pour pouvoir avoir leurs 30 secondes de gloire en passant à la télévision, et que sur ce point-là, la Commission centrale électorale allait sans doute peut-être réduire le nombre de ses candidats parce que certains étaient des candidatures un peu farfelues et qu'il n'y aura pas forcément 29 listes comme présentées. Ensuite, il a également parlé de la démission de Hara Evazian en indiquant que c'était la suite logique de la signature, en tous les cas, de cet accord qui est sur le point d'être fait. Nous avons retrouvé Christian Makarian. Bonjour Christian. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, nous étions en train de parler de l'Azerbaïdjan et et d'Aliyev et de sa politique à l'égard de l'Arménie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi une forme de dichotomie, par exemple, entre l'attitude que peut avoir l'Union européenne ou les États-Unis à l'égard de la Biélorussie, qui a effectivement scandaleusement intercepté un blogueur là-dessus, et on se souvient que l'Azerbaïdjan avait fait de même avec Alexandre Lapchine, mais n'a strictement jamais eu la moindre condamnation, la moindre sanction à l'égard de l'Azerbaïdjan.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que il faut bien comprendre que pour beaucoup de gens, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes.
Bien sûr.
Pour les grands acteurs que sont l'Union européenne et les États-Unis, qui sont engagés dans un bras de fer, puisque Joe Biden a décidé qu'il y aurait un bras de fer entre les États-Unis et la Russie, pour les puissances occidentales, la question de la Biélorussie, qui au passage se situe pleinement sur le territoire de l'Europe, la situation de la Biélorussie est un élément de concentration contre Vladimir Poutine, alors que la situation de l'Arménie, alliée de Vladimir Poutine, n'est pas du tout comparable. Vous voyez, et ça, il faut le comprendre. Loukachenko est un allié de Poutine, donc il est combattu et critiqué lorsqu'il procède à ce qu'on écrit. Mais l'Arménie est dans une alliance existentielle avec la Russie, qui fait que on peut pas, les puissances occidentales ne peuvent pas exprimer la même solidarité à l'égard de l'Arménie. Je pense qu'il faut quand même que la réponse vienne de l'intérieur. C'est-à-dire que de la vie intérieure arménienne, il faut bien sûr. Enfin, on vient de fêter le 28 mai, le centenaire de la bataille de Sardarabad. La cause était complètement perdue à l'époque, et cette victoire inattendue, qui a surpris même les Turcs, montre que quand un peuple entier exprime au prix de sacrifices inouïs sa volonté d'exister, de vivre sur sa terre ancestrale, eh bien, cette nouvelle motivation peut faire, mais non pas des miracles, mais peut permettre d'accomplir des prouesses. Je ne vois rien de tel chez Pachinian, qui devient maintenant véritablement un dirigeant consternant. Et Hara Evazian, le ministre des Affaires étrangères, qui est un homme objectivement intelligent, calme et serein, et qui a toujours cherché à servir le plus loyalement possible son pays, indépendamment de toute considération ou appartenance politique, en arrivé à dégoûter Hara Evazian, qui, il est vrai, exprimait une très forte lassitude depuis de très longs mois, puisque personnellement j'avais entendu parler de sa menace de démission il y a déjà 2 mois. Mais là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La façon dont Pachinian pense se sortir de cette affaire le met sur le chemin, contrairement à ce que beaucoup pensent, d'un véritable populiste. Et il n'est pas du tout équivalent d'être populaire et d'être populiste. Il est en train... et quelque part la survie de la nation d'une manière qui est extrêmement difficile, non seulement à comprendre, mais impossible à soutenir, parce qu'il s'agit encore une fois d'agressions caractérisées, pas seulement sur une frontière frontalière, mais aussi dans le discours et dans les intentions. Quand Aliyev parle du Zangezur terre, paraît-il, selon lui, azerbaïdjanaise, ou qu'il parle de défiler un jour dans Yerevan, ce sont des propos qu'on ne peut pas admettre, alors même qu'on est en négociation avec ce personnage-là. Donc il y a quelque chose chez Pachinian de véritablement, beaucoup plus qu'incompétent, de véritablement suicidaire. Et on peut pas comprendre que l'Arménie en soit arrivée là après 26 ans, après 30 années d'indépendance, puisqu'il faudra fêter en septembre le 30e anniversaire de l'indépendance d'Arménie. Qu'est-ce qu'on va dire lors de cet anniversaire? Et où on sera de la fameuse notion d'indépendance? Donc, rechercher à sortir du conflit et obtenir une paix durable, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut que comprendre et soutenir. Moi, je ne fais pas partie, je ne crois pas qu'il faille développer une logique ultranationaliste. Pareil, ça n'aboutit à rien. Donc, il faut chercher effectivement des compromis et comprendre qu'après une défaite, il y a nécessairement une phase de compromis qui n'engage pas forcément les 50 années à venir, mais qui, dans un temps T, doit être constaté et accepté, aussi douloureux que ce soit. Mais enfin, à ce prix-là, ça paraît quand même littéralement insensé. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, ça... les affaires étrangères le met carrément dans le camp des leaders populistes aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire.
Christian Makarian, on a vu qu'après... avoir la France, hein, maintenant le président Macron, dans un premier temps avait apporté son soutien, et puis cette semaine, le ministère des Affaires étrangères a un peu reculé en disant que sur cette question des frontières, il fallait attendre, il fallait discuter, etc., qu'il y a une solution, que seule une solution pacifique était là, alors que la France envisageait de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, envisageait, pourquoi pas, d'apporter une aide militaire. On a le sentiment que la France a fait un peu machine arrière par rapport à sa première démarche.
Oui, tout en exprimant son extrême inquiétude en raison du franchissement de la frontière par les troupes azerbaïdjanaises. Hein, le ministère des Affaires étrangères est très clair en ce sens. Non, on ne peut pas espérer davantage ni de la France, ni des États-Unis, ni d'aucun des autres pays membres du groupe de Minsk. Je parle du camp des pays occidentaux. Encore une fois, parce que le degré de gravité d'abord n'a pas été suffisamment clairement exprimé. On a l'impression d'escarmouches frontalières, alors qu'il s'agit d'un projet expansionniste qui vise l'anéantissement d'un État voisin, et je crois qu'il faut absolument le dire comme ça. Encore une fois, si Nicole Pachinian avait fait l'effort de se rendre dans différentes capitales européennes pour tirer la sonnette d'alarme, et alerté sur le caractère extrêmement dramatique, à mon avis, ça aurait eu un peu plus d'impact. S'il y avait eu une mobilisation guerrière soulevée par Pachinian, ça aurait effectivement aussi beaucoup plus d'impact. Ce qui est également frappant, c'est l'absence de couverture médiatique de tout ça.
Oui.
En Arménie, on manque cruellement d'informations. Mes collègues journalistes se plaignent régulièrement de l'absence de clarté, de l'absence d'information. Enfin, je sais bien que le pays est désorganisé et que l'armée est très très affaiblie, mais tout de même, il faut songer qu'il n'existe plus aucun conflit de ce type-là aujourd'hui dans le monde qui ne comporte également une bataille médiatique.
Tout à fait.
Et ça, l'Azerbaïdjan l'a très bien. Quand l'Azerbaïdjan était au plus bas, en fait, au milieu des années 90, l'Azerbaïdjan a développé une stratégie médiatique très forte. Il n'y a rien de tel. de la part de Pachinian, ancien journaliste.
Oui.
Donc, oui.
Mais il se méfie de la presse en étant lui-même en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il considère que la presse est aux ordres de ses opposants.
Oui, parce qu'il a pris carrément, encore une fois, un autre chemin que celui du pur démocrate qu'il prétendait être au départ.
Oui.
Donc, le personnage a évolué et son âpreté à se maintenir au pouvoir alors qu'il encaisse coup sur coup et que le pays encaisse avec lui est quelque chose qui devient maintenant vraiment très choquant. Alors, bon, ça ne résout pas le problème de l'alternative. Hein. Quoi d'autre que Pachinian, c'est un énorme problème et l'Arménie va plonger vivement dans une crise politique intérieure durable. Mais on peut découpler, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la vie politique intérieure et l'intérêt national. Je vais vous prendre encore un autre exemple qui n'a pas de valeur, car comparaison n'est pas raison, mais enfin, qui donne une idée quand même. Lorsque Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, qui se haïssaient, avec, entre les deux, pardon, centaines de milliers de morts idéologiques, dans une guerre qui était vraiment très âpre, ont eu à faire face à l'invasion japonaise, ils ont scellé un pacte, le temps, à s'entretuer comme jamais auparavant. Et puis on sait très bien que l'un a pris le dessus sur l'autre. Mais durant la période d'occupation japonaise, il y a eu une jonction pour sauver la Chine, tout simplement. Et les nationalistes combattre les communs. C'est quelque chose qui n'est même pas envisagé dans le cas de l'Arménie, qui est pourtant beaucoup plus menacée que la Chine encore, mais beaucoup plus. Donc, ce sont des choses qui, de l'extérieur, sont extrêmement difficiles à comprendre. Et voir encore ces élections comme règlement de compte entre Kocharian et Pachinian, c'est tout à fait ravageur pour un petit pays de 3 millions d'habitants qui risque de se transformer en véritable passe-train. C'est le projet d'Aliyev et d'Erdogan. Ça n'est pas à la discussion des voies de communication qui traversent le pays de part et d'autre. Il faut d'abord faire la paix, obtenir le retour des prisonniers que de manière scandaleuse Aliyev détient toujours, cesser les provocations frontalières et conditionner tout cela à l'éventuelle ouverture de l'autre, mais que ce préalable soit établi avant tout. Et de toute évidence, Pachinian ne fait pas le poids face aux Russes, il ne leur impose pas le respect, ce qui fait que les Russes ne s'engagent pas dans cette voie-là, malgré leur discours lénifiant et leur fraternité russo-arienne séculaire, etc. Donc, il y a quelque chose qui est lié au discrédit de la personne qui négocie tout cela en ce moment.
Justement, sur cette dernière question, Christian Makarian, puisque nous allons avoir Jean-Robert Ravio, qui est un spécialiste de la Russie, également maintenant au téléphone. Dernière question sur cette relation, puisque l'Arménie est dépendante, on peut le dire, de la Russie là-dessus. Au moment où, justement, la Russie n'accède pas aux demandes de l'Arménie, comme vous l'avez évoqué, est-il utile de monter le ton, comme l'a fait Pachinian cette semaine, et de dire que si l'OTSC n'intervient pas, ce serait la fin de ce traité, et que si la Russie n'intervient pas, elle manque à tous ses devoirs. Est-ce que c'est pas encore une humiliation qui n'apportera rien pour l'Arménie?
Mais c'est même pas une humiliation, c'est une piqûre de moucheron. Ça n'est absolument pas de nature à provoquer la Russie, c'est juste de nature à agacer la Russie. Et c'est vraiment pas la ligne à suivre en ce moment. L'OTSC ne suivra pas plus l'Arménie qu'elle ne l'a suivi pendant le conflit. Et ça, c'est une donnée dont quand même Pachinian était informé, c'est le moins qu'il me semble, puisque la Russie a attendu le moment qu'elle a jugé opportun selon ses propres calculs pour arrêter les hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'automne 2020. Mais elle les a laissées se poursuivre jusqu'à un certain point. Et là, de toute évidence, Moscou considère que il n'est pas bon pour la Russie d'intervenir à ce stade dans ce conflit. Donc la Russie peut-être attend une aggravation ou le résultat des élections du 20 juin, peut-être, sans doute. Mais franchement, la façon dont Pachinian, en quelque sorte, met en demeure la Russie n'est encore une fois absolument pas habile, même c'est extrêmement fâchement entre eux, et pour tout dire, vraiment pas très intelligent. C'est la question fondamentale qui se pose au sujet de ce dirigeant. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant dans la manière qu'il a d'isoler constamment l'Arménie. Et là, si vous voulez, je ne vois pas des mandants, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien. Il y a un moment où l'analyse ne peut plus avancer, il faut de l'action. Et on est dans une panne d'action telle je ne vois pas comment l'Arménie peut sortir de façon favorable de ce bras de fer, du bras de fer actuel. Vous noterez au passage que la Turquie semble un peu plus calme, je dis bien semble, ce qui est un indice aussi, ça prouve que les choses se déroulent exactement comme la Turquie le souhaitait, donc elle n'a plus besoin d'intervenir.
Oui. Alors nous avons en ligne Jean-Robert Ravio. Jean-Robert Ravio, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous partagez l'avis de Christian Makarian sur le fait que, vous qui êtes un spécialiste de la Russie, que la Russie lâche l'Arménie, n'est plus un allié stratégique de l'Arménie?
Non, pas du tout. D'abord parce que, non, on peut pas dire ça, c'est totalement, à la fois exagéré et erroné. D'abord, la Russie et l'Arménie sont alliés dans le cadre d'un traité qui s'appelle l'OTSC, donc Organisation du Traité de Sécurité Collective. Donc la Russie est présente militairement sur le territoire de l'Arménie. Je pense que tout ça, je n'ai pas besoin de le rappeler.
Non, non.
Et d'autre part, la Russie est présente sur le territoire du Karabakh en tant que force d'interposition. Ce n'est pas du tout le même type de présence militaire, mais néanmoins, la Russie est extrêmement présente sur le territoire d'Arménie et sur le territoire arménien du Karabakh. Bon, donc on ne peut pas dire qu'il y a un lâchage et on ne peut pas dire non plus qu'il y ait un désintérêt, puisqu'au contraire, l'Arménie est, je dirais, encore aujourd'hui le point focal de l'influence stratégique russe dans le Caucase du Sud.
Mais son manque d'intervention justement dans la crise actuelle, comment vous l'expliquez?
D'abord, son manque d'intervention dans la crise actuelle, je vois pas ce qui vous permet de dire ça, c'est totalement faux. La Russie est archi impliquée dans la crise actuelle. Qui a mené les négociations pour le cessez-le-feu, qui est arrêté, je dirais, la débâcle et la déroute totale des Arméniens dans la guerre face à l'Azerbaïdjan. Alors on peut dire qu'elle est intervenue tard, etc. Et ça, je pense qu'on peut y revenir, c'est un point intéressant. Mais si la Russie n'était pas aux côtés de l'Arménie et du Karabakh, aujourd'hui, alors qu'il est, il n'y aurait plus de Karabakh arménien. Point, c'est tout, ça s'arrête là.
D'accord. Et alors justement, comment Poutine voit la situation dans cette région? Enfin, comment la Russie, plutôt que Poutine, comment la Russie voit la situation dans le Caucase?
Alors, dans le Caucase, c'est un bien grand mot, parce que le Caucase, c'est très vaste, en fait. Il y a le Caucase du Nord, qui est territoire russe avec les frontières avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Bon, ça, c'est une chose. Bon, et puis, le Caucase du Sud, enfin, d'ailleurs, à proprement parler, l'Arménie n'est pas vraiment le Caucase, enfin, ça c'est une autre histoire. Comment est-ce qu'elle voit la région? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue très général, géopolitique, la Russie voit la région dans un continuum qui va de son propre territoire vers le Caucase du Nord, puis le Caucase du Sud, on va l'appeler comme ça, les trois États de Transcaucasie, et puis le Moyen-Orient. Je pense qu'il y a vraiment dans l'approche géopolitique des dirigeants russes, des diplomates russes, un continuum entre Russie, Caucase, Moyen-Orient. Bon, ça c'est une première chose, c'est très important, je pense, parce que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se n'est jamais complètement détaché une vision proprement russe. Bon, il faut dire que c'est lié tout simplement au territoire. La Russie a un prolongement, si on peut dire, il y a un prolongement caucasien, puis moyen-oriental, et une continuité des frontières, ce qui n'est pas le cas avec les pays occidentaux, où pour eux, le Caucase, c'est très très loin. Pour la Russie, c'est vraiment une région voisine. D'autre part, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que la Russie lâche l'Arménie loin de là. Dans le Caucase du Sud, l'Arménie est le. Alors, on dit souvent que les Arméniens, à juste titre, on est un peu piégés parce qu'on est les seuls. Les Russes sont nos seuls alliés, donc du coup, on a du mal à construire d'autres alliances. C'est très compliqué du point de vue. Je comprends tout à fait cet argument. Mais il y a un autre aspect qui est que les Arméniens sont aussi les seuls alliés des Russes dans la région, en réalité. Parce que la Géorgie, bon, elle a basculé depuis assez longtemps dans une inimitié avec la Russie, dans une relation difficile, et puis dans une alliance très étroite, stratégique avec l'Occident. Et puis l'Azerbaïdjan, c'est devenu un État complètement associé à la Turquie. Erdogan l'a dit, une nation, deux États, donc ça veut tout dire. Donc, en fait, dans cette région du Caucase du Sud, pour les Russes, les alliés, ce sont les Arméniens, pour deux raisons, des raisons, disons, culturelles, de proximité historique, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais aussi pour une raison très simple, c'est que l'Arménie est le seul État des membres de l'organisation sécuritaire dominée par la Russie dans la région. Donc, ça fait effectivement de la Russie et de l'Arménie des alliés, un peu, je dirais, de circonstances, mais aussi un peu obligatoires, et pour l'un et pour l'autre. Je dirais que, alors, pour la Russie, c'est aussi difficile de se positionner dans cette alliance avec l'Arménie. Pourquoi ? Poutine l'a très bien rappelé pendant la guerre, dès les premiers jours, en Russie, ce qui s'est passé, c'était assez intéressant aussi, pendant cette guerre des 44 jours, au tout début, ça a été un débat médiatique qui a très très vite tourné en faveur des Arméniens, parce que quand même en Russie, la population, l'opinion est très très largement pro-arménienne. Pour les dirigeants, c'est moins évident de garder cette posture. Bon, d'abord parce qu'il y a au sein des dirigeants un certain nombre de personnalités clairement pro-azéries, notamment pour des raisons, je dirais, énergétiques et pétrolières. Mais pas seulement, aussi pour des raisons politiques, et puis aussi pour l'État russe, et Poutine l'a dit tout de suite, il a dit, nous, attendez, on a 1 million d'Arméniens, au moins, sur le territoire de la Fédération de Russie, on en a à peu près autant, d'Azéries. Il a employé cette phrase en disant, voilà, pour nous, ce sont deux peuples frères, au sens ayant appartenu à l'URSS, au sens, nous entretenons de très bonnes relations avec l'un et l'autre peuple. Donc il n'est pas question pour la Russie d'être autre chose qu'un arbitre dans ce conflit. Mais en même temps, un arbitre entre un État qui est clairement associé, très étroitement associé d'un point de vue stratégique à la Russie, qui est l'Arménie, puis l'autre, l'Azerbaïdjan, qui ne l'est plus. Donc, si vous voulez, c'est une position un peu difficile pour la... Enfin, difficile. C'est une position un peu ambiguë pour la Russie, parce qu'elle est à la fois alliée de l'Arménie, en même temps, elle a toujours à cœur de se positionner de manière un peu neutre, même si cette neutralité, c'est une neutralité de façade, qui est acceptée comme je dirais, un argument diplomatique par les Azéris, mais les Azéris savent aussi très bien que la Russie est beaucoup plus pro-arménienne qu'elle est pro-azérie. Voilà. Mais on maintient cette espèce de façade dans les négociations diplomatiques, ce qui permet aussi à la Russie d'être effectivement la seule partie qui traite avec à la fois Yerevan et Bakou et Stepanakert et Ankara et dans le cas du groupe de Minsk qui est moribond mais qui existe encore, les puissances occidentales. C'est-à-dire qu'en fait la Russie dans ce conflit, elle est le seul élément de jonction et de dialogue entre toutes les parties.
Alors, Jean-Robert Avio, juste une seconde, on va dire au revoir à Christian Macarian, peut-être avec un mot de conclusion, Christian, par rapport à...
Écoutez, moi, je suis pas en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit.
Non, je crois pas.
Entre l'alliance qui unit Bakou et Ankara et l'alliance qui unit Yerevan et Moscou, il me semble quand même que la comparaison se fait d'elle-même, tout à fait naturellement. Donc il y a une jonction beaucoup plus forte. La notion de pays frère maniée par Erdogan a beaucoup plus de sens que la notion de pays frère utilisée par Lavrov ou par Poutine. Donc vous avez bien souligné, Monsieur Agnew, l'ambiguïté russe, mais si la Russie est présente et de façon très efficace sur le plan militaire, vous l'avez rappelé, je suis d'accord avec vous, la question aujourd'hui se joue au stade diplomatique global. Et la Russie, à mon avis, n'est pas prête à aller plus loin qu'elle ne le fait à l'heure actuelle. Et ça doit être pour les dirigeants de l'Arménie une donnée qui doit les inciter à se débrouiller tout seul face à la gravité de la situation. Et c'est bien là que se situe le problème. Les Russes sont d'accord pour soutenir l'Arménie, un traité a été signé, tout ça est clair et net, mais à condition que les Arméniens n'attendent pas trop des Russes et ne les mettent pas dans une position de porte-à-faux trop accentuée vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Moyennant quoi, la situation continue de se dégrader. Donc, ça me paraît aussi clair.
Merci, Christian. Et
merci.
Jean-Robert Avio, que pensez-vous effectivement? Alors, plus au-delà de la relation stratégique avec la Russie, comment jugez-vous les relations, on va dire, avec le pouvoir arménien actuel? Est-ce que ces relations sont bonnes ou se sont dégradées, ou comment vous les jugez?
Je vais juste revenir un instant sur ce qui a été dit, parce que il faut quand même pas oublier des choses très simples qui sont souvent oubliées, je dirais, c'est que dans cette affaire, là ce qui vient d'être dit, c'est bon, bah l'Arménie doit compter plus, ne doit pas compter uniquement sur la Russie, mais elle doit aussi compter sur les autres États. Bon, en fait, tout ça c'est très, pour moi, très très illusoire. Et ça a été très bien montré pendant la guerre. Encore une fois, je pense que toutes les leçons de cette guerre sont pas encore tout à fait tirées sur le plan politique. Qu'est-ce qu'elle a montré, cette guerre de 44 jours? Que l'Occident, les États-Unis, la France, etc., bon, en dehors de quelques déclarations tout à fait gratuites et, je dirais, de type clientéliste de Macron, à l'égard des Arméniens, il y a quand même une clientèle, diaspora, etc., la France, comme les États-Unis, sont des États membres de l'OTAN, et la Turquie est dans l'OTAN, et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, et de facto, clairement, on peut pas dire que les États occidentaux n'ont pas essayé. Enfin, je veux dire, le soutien était implicite. Voilà. Alors, on peut avoir des idées comme ça, de dire, ah ben non, c'est pas vraiment ça, mais si, c'est ça. Voilà. Et il faut pas se cacher, hein. Donc la politique française, je pense qu'elle est en dehors de quelques déclarations hautement symboliques, c'est un soutien implicite à l'Azerbaïdjan. Bon, c'est la même chose pour les États-Unis. Déjà, d'un point de vue diplomatique, l'Arménie, elle est effectivement extrêmement acculée à cette alliance avec la Russie, parce que la Russie sera la seule à pouvoir éventuellement appuyer des positions arméniennes. J'ai bien dit éventuellement. Ensuite, effectivement, comme vous le dites, comme le suggère votre question, Harout, la relation russo-arménienne au sommet est très importante. Quelle est-elle, la relation entre Poutine et Pachinian? Alors, je crois qu'il faut arrêter aussi là les fantasmes. Je pense qu'on le voit dans les relations, si je me base sur les relations que Poutine entretient avec les chefs d'État et le gouvernement des États post-soviétiques, elles sont marquées d'un très grand pragmatisme. C'est vrai que Pachinian n'a rien pour plaire, je dirais, à Poutine ou à l'élite dirigeante russe. Il a un côté, d'abord, il est issu d'une révolution démocratique, populaire, etc. C'est un ancien journaliste. Il a une allure, pas très très. Il a un côté un peu décontracté, tout ça, qui à mon avis déplaît comme ça. C'est de l'ordre de l'émotionnel. Mais depuis le temps, je pense que ils ont trouvé. La Russie travaille avec Pachinian, et je pense qu'ils ont trouvé un langage commun, d'autant que Pachinian est quand même dans une situation extrêmement, pour ne pas dire affaiblie, mais plus qu'affaiblie. Enfin, il est vraiment.
Alors, je pense pas que tout ce qu'on écrit ou ce qu'on lit sur le fait que Pachinian soit lié ou que son entourage ou que les membres de son entourage soient liés à des fondations occidentales, tout ça, bon. Ça, je pense que ça joue un rôle, ça a peut-être joué un rôle en 2018-2019, mais ça joue plus du tout de rôle aujourd'hui. On n'en est plus là, je dirais. Moi, je pense que ce qu'il faut, ce qui est plus dangereux pour, j'ai peut-être une vision peut-être trop géopolitique ou géostratégique des choses, mais j'ai tendance à voir le danger autre part pour l'Arménie. C'est-à-dire être lâché pour la Russie, par la Russie de sa bande. Je pense pas que l'Arménie sera lâchée par la Russie, parce que l'Arménie est le seul point d'accès au Caucase du Sud pour la Russie et pour les forces russes. Bon, et c'est très important pour la Russie d'avoir un contrôle, un œil très étroit sur la frontière avec la Turquie, la frontière avec l'Iran. Ça, c'est extrêmement important d'un point de vue géostratégique pour la Russie. Non, moi, je vois plutôt dans le danger d'une dissociation éventuelle entre la relation entre Moscou et Erevan d'un côté, la relation entre Moscou et Stepanakert de l'autre. Je pense que cette guerre et l'intervention russe, les forces d'interposition, etc., elle marque effectivement une arrivée de la Russie sur le terrain du Karabakh. Ce n'était pas le cas directement, et d'un point de vue militaire, et ça c'est très important. Et c'est très important d'un point de vue politique, parce que le Karabakh devient une enclave. Bon, c'était une enclave arménienne non reconnue, un état de facto, ça. Bon. Maintenant, ça devient une enclave peuplée d'Arméniens, mais gérée par la Russie. Et non seulement cette enclave est gérée par la Russie, d'un point de vue, enfin, ce qui assure sa sécurité, mais d'autre part, d'un point de vue politique, ça peut avoir l'effet auprès des Karabakhtis, de dire bon, bah finalement, c'est pas plus mal comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'à terme, ce qui risque de se produire, c'est une sorte de
protectorat.
Non pas de coupure, mais d'écart entre Yerevan et Stepanakert. C'est-à-dire, finalement, le sort du Karabakh n'est pas entre les mains d'Yerevan, il est à Moscou. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour la Russie, est un point fort. Enfin, dans sa stratégie, c'est pour les Russes, c'est très important. Enfin, c'est très important de... On a vu cette stratégie à l'œuvre en Géorgie avec l'Ossétie, bon, prendre appui sur des entités sécessionnistes, des États non reconnus. Bon. Et puis d'autre part, pour Yerevan, ça suppose de se situer là-dedans. De se situer. Et je pense que le grand problème de Pachinian, et peut-être même de la classe politique de Yerevan en général, c'est de se situer par rapport au Karabakh, d'avoir une vraie politique, de savoir ce qu'on veut. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en tant qu'observateur extérieur pendant cette guerre, c'était l'absence de politique à l'égard du Karabakh. C'est-à-dire, en fait, bon, bah, le Karabakh, c'est l'Arménie, c'est les Arméniens, c'est bon. En dehors de l'émotionnel et des arguments, on va dire, émotionnels, il n'y a pas de vision de ce que doit être le Karabakh par rapport à l'Arménie et qu'est-ce que l'Arménie, quelle politique l'Arménie doit déterminer par rapport au Karabakh et donc par rapport à Moscou dans ce contexte. Et ça, je pense que c'est la grande faiblesse de Yerevan, c'est de ne pas avoir de politique, et on le sent aujourd'hui très très nettement dans cette négociation, qui est, négociation, hein, si on peut dire, enfin, l'Arménie a le fusil, enfin, la Kalachnikov dans le dos, hein, parce que d'un côté, vous avez bon les Russes qui sont les arbitres absolument incontestés, les Azéris qui font une pression énorme, et comme l'a dit votre intervenant précédent, ce qui est très sous-estimé par les médias occidentaux, c'est l'entreprise non seulement négationniste, mais aussi politique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui sont dans une logique non pas de récupérer des petits bouts de territoire, mais qui sont dans une logique de prise de contrôle, hein, voire d'invasion. Enfin bon, je sais pas s'ils veulent envahir l'Arménie, je sais pas jusque là, mais en tout cas. Il y a une force incroyable, et il suffit d'écouter les discours quand même, ils sont quand même... Bon. Donc, l'Arménie, là, au milieu, elle est un peu coincée, et surtout, elle n'a pas l'air de savoir exactement comment... Moi, ce qui me frappe, c'est de ne pas entendre quelqu'un qui dit « voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il faut qu'on fasse ». Et ça, c'est très, très, très préoccupant, à mon sens.
Alors justement, j'évoquais avec Christian Makarian les dernières déclarations de Pachinian cette semaine, qui voyant l'aide russe ne pas arriver, disait que cela remettait en cause à la fois le traité de sécurité collective en disant que ce traité serait mort-né si l'OTC n'intervenait pas militairement, et que y compris celui avec la Russie en disant que l'Arménie on pourrait attaquer la Russie et l'Arménie ne bougerait pas le petit doigt si la Russie était attaquée. Ce qui est quand même un peu de rajouter un peu de la tension sur la tension. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à jouer avec Moscou?
Bah bien sûr que non, c'est complètement ridicule. En plus, qui va attaquer là, c'est pas. Enfin bon. Non, c'est les jeux de rhétorique. Voilà, il faut savoir tenir sa langue, et malheureusement, Pachinian ne sait pas le faire. Et il faut vraiment savoir tenir sa langue. C'est pas surtout quand on est une partie en conflit. Non, je pense qu'effectivement, accuser la Russie de ne pas intervenir dans le cadre de l'OTS, c'est vrai que si, du point de vue, dans le premier conflit, la Russie n'avait aucune raison d'intervenir,
tout à fait.
Il n'y avait pas agression contre l'Arménie, mais contre Karabakh, qui est une entité non reconnue, etc. Enfin, pour tout ça, je le rappelle. Désormais, maintenant, ce qui est menacé, ce sont les territoires de l'Arménie elle-même. Bon, je vous l'avais dit sans doute 1500 fois. Donc, bon. Alors, la Russie, elle est à la fois, c'est toute l'ambiguïté de la situation, elle est à la fois l'alliée de l'Arménie dans le cadre de l'OTSC, mais elle est aussi la puissance tutélaire qui veut être le faiseur de paix. Voilà. Donc, les deux sont liés et les deux sont en balance. Qu'est-ce que la Russie doit être davantage? Bon, alors les Arméniens diront il faut que la Russie nous défende. Et puis, en même temps, la Russie, elle essaye d'imposer une voie de sortie de ce conflit. Alors, j'irai plus loin que votre intervenant précédent. Moi, je pense que la Russie, elle a une vision de négociation, enfin de sortie. Et cette vision, d'abord, c'est ce que j'ai appelé dans plusieurs articles l'astanisation, c'est-à-dire essayer d'appliquer ce qui a été fait dans le cadre du processus d'Astana pour la Syrie, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, au Caucase du Sud. Ça veut dire négocier en Russie-Turquie, éventuellement Iran, et surtout pas les Occidentaux. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que la Russie, à mon avis, aimerait faire avancer une éventuelle négociation pour sortir du conflit. Donc la Russie, elle est puissance tutélaire et en même temps puissance protectrice. Donc, effectivement, en tant que protecteur, disons, son rôle de protectrice est arrêté par la nécessité d'apparaître comme une puissance tutélaire. Donc, c'est elle qui arbitre. Est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas? Elle est la seule à pouvoir le faire. Et des déclarations hystériques, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, mais surtout là, en l'occurrence, vous citiez bon, les mots, ça va pas certainement influencer la Russie. En réalité, la réalité des choses, c'est que Yerevan n'a pas de levier avec Moscou. C'est complètement dépendante. Et ça, c'est une situation qui est évidemment tragique aussi pour l'Arménie, mais en même temps, c'est une situation objective.
Oui.
Donc, il faut absolument que les élites dirigeantes de l'Arménie évidemment soient capables d'entretenir avec Moscou une relation réaliste. Voilà. Et pour ça, ça passe par la connaissance de ce que c'est que l'univers impitoyable des élites politiques russes. Et cette connaissance, évidemment, le gouvernement actuel, Pachinian, tout ça, sont très très loin de l'avoir. Et c'est un handicap, hein, je dirais, pour l'Arménie. Bon. Ce serait mieux d'avoir quelqu'un qui connaît les rouages. En même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, c'est comme ça, et que je pense que l'Arménie n'est pas dénuée d'arguments, de possibilités de faire valoir ses arguments, notamment sur les questions de frontières. Ça aurait été plus intelligent, par exemple, au lieu de hurler en disant voilà, la Russie fait rien, etc., de dire mais regardez ce qui s'est passé dans d'autres cas de conflits frontaliers, parce que ce tracé frontalier, il existe sur le papier, mais ça a été bien montré qu'il n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que ce sont des frontières qui souvent, quand vous allez sur le terrain, elles sont pas marquées. Vous voyez, bon. Il y a eu des cas, par exemple, ce qui s'est passé pendant toutes les années 90 au Tadjikistan, et aussi entre l'Ouzbékistan et Tadjikistan, c'était exactement ça. Voilà. Dans ce cas-là, la Russie a toujours joué un rôle extrêmement, à la fois distant, mais elle a, elle a été très très garante de ces questions de frontières aux côtés de l'Ouzbékistan notamment, disant attention là, la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, elle était là, etc. Peut-être que ce serait plus utile pour Yerevan de mobiliser les ressources russes pour faire défendre ce tracé de frontière plutôt que de s'indigner que je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait. Juste après la guerre de septembre-novembre dernier, on a évoqué aussi un contre-coup de cette guerre, qui est qu'en fait, l'Azerbaïdjan a la Russie a repris pied en Azerbaïdjan, et voire même c'est maintenant dispose de militaires en Artsakh et au Sunik. Enfin, est-ce que c'est aussi un retour de la Russie en Azerbaïdjan?
Alors, à vrai dire, je ne crois pas quand même. On peut pas le dire de cette manière-là. C'est un retour d'une certaine influence russe sur la politique azérie, bon, qui n'a jamais vraiment cessé, mais qui quand même s'était largement estompée pendant les deux dernières années avant le conflit, notamment depuis 2018. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan s'est beaucoup rapproché de la Turquie, notamment au niveau stratégique. Mais il faut voir que pendant tout le conflit, d'ailleurs, les 40 jours, là, il y a eu des moments intéressants où on a vu l'Azerbaïdjan est une dictature, donc les choses filtrent beaucoup, c'est très difficile. Ça filtre pas, il y a beaucoup de choses qui ne filtrent pas, des conflits internes aux clans, au pouvoir, etc. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, c'était une sorte de purge, mini-purge, on va dire, au sein de l'armée, dont la logique, c'était d'écarter les plus vieux et les plus... donc les plus vieux, c'est-à-dire les soviétiques, c'est-à-dire des gens qui avaient été formés à l'époque soviétique, donc un peu pro-russes, disons, de mentalité russe, soviétique, donc pour les remplacer, si possible, par des jeunes plus turco-compatibles.
Formés en Turquie ou dans le cadre de l'OTAN.
Formés en Turquie ou en tout cas avec une on avait donc cette idée qu'il y aurait une vieille génération, disons pour simplifier, pro-russe, et puis une nouvelle génération pro-russe. Alors j'ai demandé un peu leur avis à quelques collègues qui connaissent bien, mieux que moi en tout cas, l'Azerbaïdjan, et pour la plupart, c'est pas aussi net que ça. Et l'influence russe, hein, tout du moins l'autorité en fait de la Russie, dans l'armée azérie et dans les services en général, est assez grande et reste assez grande. Pourquoi ? Parce que souvent les cadres supérieurs continuent d'être formés en Russie. Alors on voit un profil, d'ailleurs un peu comme en Arménie, formé en Russie puis ensuite éventuellement ayant fait des stages dans des académies américaines ou des formation en Occident, etc., donc double formation, mais la formation initiale russe reste vraie, et donc à cet égard, j'ai appris que à l'Académie Suvorov à Moscou, donc une académie de formation des officiers supérieurs, qui forme beaucoup d'officiers supérieurs de l'ex-URSS, et pas seulement des pays alliés à la Russie comme l'Arménie, bien sûr, mais aussi d'autres pays, y compris jusque dans les années 2010, ukrainien, ça m'a beaucoup surpris. Donc cette Académie Suvorov, elle continue de former pas mal d'Azéris. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné de voir que cohabitaient dans les mêmes promos des Arméniens et des Azéris. Bon, ça, c'est très étonnant et c'est très et ça montre bien, justement, très concrètement le rôle de la Russie, en fait, dans cette affaire. Donc, effectivement, la Russie a une certaine autorité en Azerbaïdjan, mais quand même, l'Azerbaïdjan est beaucoup moins un allié de la Russie que l'Arménie ne l'est. Hein, il y a quand même une très grande proportion, hein, c'est clair. Il n'y a pas de forces armées russes en Azerbaïdjan, et justement, pour l'Azerbaïdjan, l'arrivée des forces d'interposition russes au Karabakh, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle. C'est pas une victoire jusqu'au bout. La victoire pour l'Azerbaïdjan, ça aurait été de de virer tous les Arméniens et de prendre la totalité du territoire. Là, c'est pas une victoire. Alors, en dépit des effets de manche, des grands discours et des grands défilés dans Bakou triomphalistes, etc., la victoire pour l'Azerbaïdjan a été arrêtée, hein, nette. Et elle a été arrêtée par l'intervention russe. Donc, quand même, la Russie, dans cette affaire, n'en sort pas plus populaire dans l'opinion azérie.
D'accord.
Voilà.
Vous qui regardez tout l'actualité russe depuis la France, comment jugez-vous justement le rôle que peut jouer la France par rapport à la Russie? Comment la France peut s'insérer dans ce jeu-là?
La France ne peut pas s'insérer dans ce jeu-là, d'abord parce que on est dans une situation de, entre guillemets, nouvelle guerre froide, où la France est très très alignée, hein, sur des positions OTAN, Union européenne, États-Unis, etc. Et n'est pas perçue comme étant... on est plus sous le général de Gaulle ou même sous Jacques Chirac, vous voyez. C'est oui. Très très loin tout ça. Donc on est maintenant la France, la voix de la France dans le conflit... Enfin, par Moscou, elle est jugée comme extrêmement peu importante, hein, pour rester poli. Hein. Donc, en fait, la France, je pense, d'un point de vue diplomatique, a vraiment un rôle très très mineur, ne peut jouer qu'un rôle très mineur actuellement. Elle pourrait jouer un rôle si elle se dissociait un peu davantage sur d'autres terrains de l'ensemble, vous voyez, de la position américaine, etc. Si on était en 2003, je vous dirais que la France pourrait jouer un grand rôle. Mais on est en 2021 et c'est plus le cas. Pourtant, on a un ambassadeur qui fait bien son boulot, je trouve, qui est vraiment bon. Et puis une classe politique française qui est quand même très très largement du côté des Arméniens. Hein. Donc effectivement, la France pourrait jouer un rôle d'appui de l'Arménie.
Pour
Moscou dans ce rôle, mais je pense que la réalité des choses, c'est une France alignée sur l'OTAN et sur l'Union européenne, qui soutient implicitement la Turquie. Je crois qu'il faut, encore une fois, il faut pas se raconter des histoires. C'est très très désagréable. Et moi, en tant que Français, je peux vous dire que ça m'est pas du tout agréable de dire ça. Et c'est presque une honte, mais c'est la réalité. Et bon, du coup, la position qu'on peut avoir vis-à-vis de Moscou. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait essayer d'appuyer l'Arménie auprès de Moscou, si c'est ça que vous voulez dire. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je verrais comme position. Ben,
disons on a entendu les autorités arméniennes vouloir peut-être pas jusqu'à aller aux États-Unis, mais en tous les cas, peut-être d'envisager un tandem, en tous les cas, de remettre la France. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'était une négociation Russie-Turquie. Avec un peu l'Iran, enfin voilà, vous avez évoqué ça. Côté arménien, on aimerait bien qu'il y ait la France qui se rajoute dans ce schéma-là, mais est-ce que c'est envisageable du côté de la Russie?
Mais du côté de la Russie, bien sûr, c'est pas du côté de la Russie le problème. Mmh. Le problème, c'est la position de la France dans l'ensemble occidental, je pense. Voilà, c'est que la France n'a aucune, enfin ne prend aucune autonomie là pour l'instant dans ce conflit, sur d'autres terrains. Il suffit d'observer, de regarder la Russie, les relations avec la Russie, ça se passe, c'est aussi les relations directes avec la Russie, c'est aussi ce qui se passe autour de Nord Stream, ce qui se passe autour de Navalny, ce qui se passe autour de la Biélorussie et de l'Ukraine. Et là, on peut voir la France, elle est complètement, les positions françaises actuelles sont pas très appréciées à Moscou. Donc, ce qui fait que si l'idée c'est que Paris gagne en voix auprès de Moscou et peut appuyer l'Arménie auprès de Moscou, le problème actuel de la France, c'est qu'elle n'est pas crédible. Voilà. Mmh. Les élites actuelles françaises sont pas crédibles pour porter ce genre de politique. Maintenant, tout peut changer radicalement. Ça, j'en sais rien. Je sais pas suffisamment. Moi, je suis plutôt un spécialiste de la Russie que de la France. mais j'en sais rien. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, malheureusement, la voix de la France sous le dossier porte très peu. Et c'est très très dommage parce que je relisais pendant cette guerre, en relisant ce qui s'est fait autour de, enfin dans le cadre du groupe de Minsk, en relisant le travail qui a été fait par notre ambassadeur à l'OSCE, enfin pour le groupe de Minsk, Monsieur Visconti, en écoutant ses interventions à l'Assemblée, au Sénat, enfin bon, je me rendais compte de tout le savoir et la compétence et la grande finesse d'analyse qui était capable. Ils sont capitalisés par la diplomatie française sur ce dossier, et qui malheureusement, finesse d'analyse qui malheureusement n'est absolument pas utilisée. Si vous voulez, c'est assez dramatique de voir ça, je trouve très très dommage. Et je pense qu'il faut pas, à nos amis arméniens, il faut pas leur laisser entendre, il faut pas leur faire croire que la France va faire des merveilles ou a une position importante ou peut changer la position de la Russie ou la position des États-Unis ou je ne sais quoi. La France, pour l'instant, elle a une voix vraiment peu crédible et c'est très très dommage.
Écoutez, Jean-Bernard Aviaud, merci encore pour vos analyses qui, en fait, je pense, n'étaient pas si éloignées de celles-là de notre autre interlocuteur, Christian Makarian.
Et, excusez-moi, en fait, comme il y avait des trucs techniques, j'ai pas tout entendu avant. J'ai écouté un tout petit peu avant, mais j'ai pas entendu la totalité de l'intervention de M. Makarian. Donc,
Je pense que vous étiez d'accord sur beaucoup, beaucoup de points. Donc, merci encore. Et puis, à une prochaine fois, parce que, effectivement, on a besoin de plus en plus d'éclairage sur comment la société russe et comment la Russie voient les évolutions dans le Sud-Caucase et par rapport à l'Arménie. Merci encore.
À votre service. Merci, au revoir.
Au revoir. Donc nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Robert Aviaud, qui est un professeur à l'Université de Nanterre, spécialiste de la Russie, Christian Makarian, journaliste et éditorialiste, et puis nous avions en début d'émission Kéra Manoukian, le directeur de Yelgir Media, qui nous a fait un point sur la situation de ce matin en Arménie et sur les frontières, sur la relation diplomatique. Et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur Table. Merci encore.
Carte sur Table. Une émission proposée par Hype FM.